Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la fois dernière quand on avait vu l'assurance? Plusieurs choses. L'assurance vient quand on écoute Dieu. Ça, c'est déjà une chose. L'assurance provient du discernement et de la réflexion. Le livre des Proverbes est là pour l'attester. L'assurance est bâtie sur la confiance. C'est une question de confiance en Dieu. L'assurance vient quand on demeure ferme dans la fidélité et la droiture. On avait plusieurs exemples. Être ferme dans nos sentiments, dans ses dispositions et dans ses pensées, c'est important. Être confiant, c'est vivre chaque jour dans l'intimité avec le Père, et ça nous procure de l'assurance de vivre dans l'intimité avec le Père. Alors, l'assurance dans le Nouveau Testament. Alors, je voudrais commencer par une petite histoire. John Wesley, c'est un missionnaire anglais, un grand prédicateur anglais. Il en fait à peu près, dans toute l'Angleterre, 70 à 80 000 kilomètres à cheval, de ville en ville. Il allait parler, apporter la parole dans des petits groupes de prière, et puis prêcher l'évangile dans toutes les villes du royaume. Vraiment, il a créé un véritable, avec l'aide de Dieu, parce que tout seul, il n'y serait pas arrivé, mais Dieu a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi je n'en ai faites. Et là, il y a eu un réveil extraordinaire. Les cafés ont fermé les uns après les autres, et les gens qui allaient au café sont devenus chrétiens, les gens qui battaient leurs femmes, qui buvaient, sont devenus chrétiens. Il y a eu des transformations de vie. C'est une église, l'église Wesleyan, donc méthodiste. Donc en Angleterre, on l'appelle l'église méthodiste. En Amérique, on l'appelle l'église presbytérienne. Et donc ça vient de John Wesley. Il y a vraiment eu un réveil prodigieux, des milliers de personnes sont venues à l'évangile grâce à cet homme. Au départ, eh bien, il était un missionnaire au départ. Il est parti aux États-Unis et il a enseigné là-bas, il a prêché la parole et il n'y a eu aucun résultat. Il s'est dit, c'est terrible ça, aucun résultat. Et puis, il y a eu un pasteur morave qui a interrogé Wesley. Et il était missionnaire à ce moment-là pour 2 ans en Géorgie, dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Et voilà la question posée par ce pasteur. L'Esprit de Dieu vous rend-il témoignage que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu? Et John Wesley a dit non, pas vraiment. Êtes-vous sauvé? Et il n'était pas sauvé, en fait. Il parlait de Dieu, mais il n'était pas sauvé au départ. Au départ de son ministère, il n'était pas encore sauvé. Il connaissait plein de choses. Il a été à l'école biblique. Il connaissait vraiment plein de choses sur Dieu. Il pouvait dire tout, plein de sermons extraordinaires. Mais il n'était pas en relation avec le Seigneur. Et Wesley écrit avec tristesse dans son journal, « J'ai été en Amérique pour convertir les Indiens. » Mais qui me convertira moi-même? Qui me convertira moi-même? De retour à Londres, le 24 mai 1738, il se rend malgré lui dans une petite réunion où on lit l'introduction de Luther aux Romains. Entendant la description du changement que Dieu opère par la foi en Christ, il relate son expérience. « Je sentis mon cœur se réchauffer étrangement. Je me confiais en Christ seul » pour mon salut, reçu l'assurance qu'en notant mes péchés, il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Il a reçu cette assurance en lui. La parole de Dieu devenait une réalité pour sa propre vie, pas seulement pour son intelligence, mais Dieu avait accompli une œuvre en profondeur dans sa vie. Il avait compris. Cette fois-ci, le frein était tombé. Je veux dire, l'esprit était descendu dans sa vie. Son cœur était changé. Et là, il a eu cette assurance que Dieu avait ôté ses péchés de sa vie. Il avait l'assurance qu'il était un enfant de Dieu. Alors, l'assurance, elle prend sa source. Donc, pour revenir à John Wesley, ne pensez pas que c'est après avoir fait des prédications, après tout un réveil, qu'il se rend compte qu'il n'était pas sauvé. Évidemment. C'est d'abord en Géorgie que ça se passe. Là, il réalise, quand il revient à Londres, qu'il n'est pas sauvé, puis il est sauvé. Et puis, il commence à évangéliser. Et là, il y a du résultat extraordinaire. Après, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont se tourner vers le Christ au travers de son témoignage, au travers de son ministère itinérant. Alors, l'assurance prend sa source dans la foi. L'assurance, elle prend sa source dans la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1. On le voit ici, Hébreux 11, 1. Qui peut lire ce verset? Facile à lire.
Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Voilà, merci Maria. Donc, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tant de gens veulent voir des choses avant d'y croire. Mais Dieu, il fait les choses autrement. Il dit, crois d'abord, et puis tu verras ensuite. C'est plus difficile. Mais c'est le chemin de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas encore, parce qu'on les espère, on espère ces choses. Mais on y croit déjà. Et nous le verrons plus tard. Mais on espère. Et on a la foi dans ces choses qu'on espère. Et quelque part, c'est une démonstration, la foi. J'ai de l'assurance dans des choses que je ne vois pas. Vous êtes fous? Mais non, ce n'est pas de la folie. C'est une démonstration d'une assurance qui se base sur Dieu qui ne ment pas. Dieu ne peut mentir. L'ennemi de la foi, c'est l'incrédulité ou plus subtilement le doute. L'incrédulité, c'est simple. Si je ne vois pas, je n'y crois pas. C'est la science, c'est objectif. Et si je ne vois pas, si on ne peut pas me prouver, alors Dieu n'existe pas. Prouve-moi que Dieu existe et j'y croirai. C'est le monde de la science. Mais la science n'est pas mauvaise. Il y a des choses qui sont dites dans la Bible et qui sont prouvées par la science. La science a prouvé des choses. Hein. L'archéologie, c'est la science des débuts, des commencements. L'archéologie étudie les sols. Et on a découvert dans l'Ancien Testament des choses qu'on disait « Oh, mais Abraham n'a jamais existé. » Abraham, allez, faut rire ou quoi? Abraham, qui? Oui, c'est la Bible qui dit ça, et alors? Et on a retrouvé à Ebla, dans un site de fouille, à je ne sais pas combien de mètres en dessous du niveau du sol, on a retrouvé dans une ancienne bibliothèque des tablettes en argile sur lesquelles on a retrouvé le mot Abraham, bien sûr en langue babylonienne, en cunéiforme, voilà. Langue cunéiforme. Et on a retrouvé cela. Donc Abraham, c'est pas faux. Alors Josué, la Bible dit que par exemple Josué a détruit Jéricho et les scientifiques du 19e siècle, du 18e, du 19e siècle, surtout du 19e, ont dit mais ça c'est ridicule. C'est vraiment complètement ridicule. Jamais il y a eu un incendie à Jéricho. Ça ne s'est pas produit. C'est des bêtises de la Bible. Eh bien, la science, l'archéologie a découvert et on a pu faire la datation. Ça se situe à l'époque de Josué et on a retrouvé des éléments brûlés hein, de ce temps-là. Et donc, on a retrouvé de la poterie, etc., qui date de ce temps-là, des lampes, etc., toutes sortes de choses, et on a pu prouver que le livre de Josué n'est pas une utopie, n'est pas quelque chose d'inventé, un mythe ou quelque chose comme ça. Non, le livre de Josué, c'est une réalité. Et la science finit par dire ce que la Bible affirme. Hein? Pas dans l'entièreté, c'est sûr que la science fait des progrès, on n'est pas encore arrivé à tout découvrir, et on ne découvrira pas tout, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Hein? On ne pourra pas tout prouver, et c'est pourquoi la foi sera toujours nécessaire pour s'approcher du Dieu vivant. Il n'est pas possible de tout prouver. On doit croire pour s'approcher du Dieu vivant. Alors, j'aimerais bien qu'on lise 1 Pierre, chapitre 1, verset 7 aussi, ça il n'est pas sur le rétroprojecteur. Et j'aime bien ceci. Pierre, il dit ceci, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'épreuve de votre foi. Et la foi, elle est caractérisée comme étant plus précieuse que l'or périssable. L'or est périssable. Devant Dieu, l'or est périssable. Vous allez dire que c'est une matière impérissable parce que ça ne s'oxyde pas. C'est une matière qui ne s'oxyde pas. C'est pour ça qu'elle a de la valeur et parce qu'elle est très rare. Mais notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Plus précieuse aux yeux de Dieu. Dieu consomme notre foi. Dieu cherche dans nos cœurs à y placer sa foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si vous voulez avoir la foi, lisez la Bible. Parce que Dieu se sert de sa parole pour nous conduire vers la foi. Et Dieu consomme la foi, c'est-à-dire que Dieu voit la sincérité. Dieu voit si ce ne sont que des mots religieux. Pour certains, ben, la religion, oui, l'Église, c'est, voilà, c'est un charabia religieux, hein, des paroles et des paroles. Mais Dieu voit qu'il y a des gens qui, au-delà des mots, vivent réellement quelque chose avec Dieu. Et je crois qu'ici, nous voulons vivre et nous vivons des choses avec Dieu. Est-ce que nous vivons quelque chose avec Dieu ? Ou ce ne sont que des mots ? Des églises où les gens, ils vont à l'église, puis ils sortent, ils vont au café, c'est à peu près la même chose. Pendant la semaine, ils vivent d'une manière, ils vont à l'église, et c'est une autre chose. Et voilà, c'est compartimenté, la vie est compartimentée. Mais Dieu veut que toute notre vie, toute notre existence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, minute après minute, nous vivions avec le Seigneur. Il regarde au fond de nos cœurs et dévisage tous les faux semblants. Et ce que Dieu voit, c'est une foi éprouvée par le feu qui éprouve l'or le plus précieux. Vous savez comment on obtient l'or ? Bien sûr, on trouve les pépites, même au Guatemala, mais dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, on trouve des pépites en Équateur et ailleurs, et ces pépites, on les fond. Il doit y avoir une épreuve pour la vérifier. Et l'épreuve vérifie toujours notre foi. C'est trop facile de croire quand tout va bien. Trop facile. Donc, nous devons être éprouvés, comme l'or est éprouvé au creuset. Dieu l'a fait fondre et toutes les scories apparaissent à la surface. Les scories sont ôtées et nous obtenons de l'or le plus fin, le plus pur. Afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus consomme notre foi. Alors, l'assurance, elle prend sa source dans la foi. Elle vient quand on s'appuie sur la parole de Dieu. La foi, elle s'appuie, elle s'articule sur la parole de Dieu. L'assurance vient quand on s'appuie sur la parole de Dieu. Qui veut lire 1 Jean, chapitre 5, verset 14 ?
Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.
Amen. Voilà, nous avons auprès de lui, merci Micheline, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. L'assurance de cette parole. Dieu nous entend, Dieu nous écoute, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous avons de l'assurance devant ce Dieu qui nous entend et qui peut répondre adéquatement à nos besoins. Parce que c'est un Père, un Dieu qui nous aime. On l'a dit tantôt dans la louange, c'est un Père. Alors, s'appuyer sur la parole de Dieu, tu peux mettre la dia suivante. Utiliser la parole de Dieu comme un bras de levier, c'est la parole de Dieu, c'est comme un bras de levier qui soulève des obstacles ou des poids immenses par rapport à la force que nous avons. Nous n'avons pas la force de porter une pierre pareille. Hein, ce pauvre homme-là, il a trouvé une idée géniale. C'est de mettre un bras de levier avec une autre pierre, et avec ça, il a une force extraordinaire. La parole de Dieu, c'est comme un bras de levier, quand on l'utilise avec la foi, c'est un bras de levier qui fait bouger des montagnes entières. Si vous avez la foi, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jettera. Pourquoi ? Parce que c'est comme un levier qui fait mouvoir des milliers de kilos avec très peu d'énergie, en fait. C'est des principes de physique, ça. Étudié dans la physique. Mais c'est vrai que dans le domaine spirituel, nous arrivons à la même chose. Donc s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est comme si nous utilisions un bras de levier pour faire bouger une pierre beaucoup trop lourde pour nos forces physiques. Vaincre des géants, c'est la même chose. Comment est-ce que David a pu vaincre Goliath? Parce que Goliath, il n'y a pas photo, il est beaucoup plus fort que David, il a de l'expérience. C'est un homme qui est un guerrier depuis sa tendre jeunesse. C'est un guerrier qui est vraiment dans sa maturité. On n'a pas mis un bleu, c'est pas un bleu, c'est pas une vieille personne non plus. C'est quelqu'un dans sa pleine force, dans son plein pouvoir, dans ses pleines capacités. Comment David, lui tout jeune et tout frêle par rapport au géant, a-t-il pu le vaincre? Parce qu'il a utilisé la foi. Sa foi était son bouclier. C'est ce qui lui a permis aussi de vaincre Goliath, de lui jeter ce caillou au milieu des deux yeux, s'il avait eu de la peur dans son cœur. Il aurait tellement tremblé qu'à coup sûr, il aurait loupé la cible. Vous imaginez quelqu'un qui tremble devant Goliath? Alors, les Israélites tremblaient tous, même le roi. Et il n'aurait jamais voulu prendre cette place, oser risquer d'aller se battre avec Goliath. Il n'y a personne, il réfléchissait beaucoup à qui irait se battre contre Goliath. Et ça durait depuis 40 jours. Et il n'y a personne qui bougeait le petit doigt, parce que de plus en plus, et plus les jours passaient, plus ils avaient peur. Et la peur est communicative, ils avaient de plus en plus peur les uns avec les autres. Et David, il sort du lot. Il a une onction, il a une foi en Dieu, et il a été habilité par le Seigneur, parce que je ne sais pas si on l'aimait beaucoup dans sa famille, mais on lui a demandé de faire une tâche terrible, et on le savait très bien qu'il y avait des lions dans la région, on le savait très bien qu'il y avait des ours, mais c'est lui qui devait aller garder le troupeau, et il a dû se battre tout seul contre des lions et des ours. Je pense que on aurait peut-être été content qu'il meure un jour d'une patte d'un ours ou du lion. Mais lui, au travers de ça, il a fait ses armes. Il a fait ses armes. Il a eu la victoire contre le lion et contre l'ours. Et quand il a été confronté à Goliath, il était déjà un homme avec une foi éprouvée. Et il a eu la victoire parce qu'il avait déjà rencontré des géants dans sa vie. Et vaincre la maladie et la mort. Vaincre la maladie, c'est aussi un Goliath. Vaincre la mort, c'est un Goliath aussi. Supporter les mauvais traitements pour le nom de l'Éternel. Nous allons voir cela dans Hébreux 11, qui est le chapitre dédié à ceux qui ont la foi. Alors, Hébreux chapitre 11, si vous voulez bien, au verset 34. Et qu'est-ce que nous lisons? Est-ce que quelqu'un pourrait lire Hébreux, chapitre 11, verset 34 au verset 37? Qui peut lire?
Point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les mots. çà et là, vêtu de peau de brebis et de peau de chais, dénué de tout, persécuté et maltraité.
Merci. Donc voilà ce qu'ont fait ceux qui avaient la foi. Ils ont éteint des feux violents. Ils ont évité d'être tués par l'épée. Dieu les a protégés. Pensez à l'armée de David. Beaucoup n'ont pas été tués. Quand ils se battaient contre les autres armées, beaucoup étaient tués dans l'autre camp. Mais chez eux, il y avait peu qui étaient tués. Pourquoi ? C'est la foi. La foi est communicative. David avait communiqué la foi. Il y a eu vraiment des gens surdoués dans la guerre, dans l'armée de David. Parce que David a donné l'exemple et d'autres se sont exercés, ont été habilités à faire la guerre et à remporter des victoires. Et il y a un chapitre qui parle des héros de la guerre avec David, parce qu'il n'était pas le seul à être un héros. Et ils ont battu des géants, d'autres que David ont battu des géants. Et donc on voit vraiment, ils ont été courageux pendant les guerres, ils ont repoussé des armées étrangères, des femmes qui ont cru en Dieu ont retrouvé leur mort. Hein, des morts sont revenus à la vie. Des hommes ont été torturés. Ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure. Ils n'ont pas voulu qu'on les délivre. Ils préféraient revenir de la mort à une vie meilleure avec Dieu. D'autres ont supporté des insultes, des coups de fouet, etc. Et ça, c'est la foi qui les a aidés à supporter les maltraitances. Encore aujourd'hui, dans l'Église persécutée, ils manifestent la foi, ceux qui ne renient pas le nom du Seigneur. Ils manifestent cette foi, ils sont prêts à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. C'est exactement la même foi que Hébreux 11. Alors, l'assurance vient quand nous comprenons les Écritures. Quand nous comprenons les Écritures, parce que tant qu'on ne comprend pas les Écritures, on est pauvre. On est emporté par les courants d'air spirituels d'une vague ou d'une autre. On ne tient pas spirituellement. On est pris par les raisonnements de l'adversaire, les pensées de l'adversaire qui nous font dévier, comme des vents contraires qui font dévier les bateaux pour qu'ils aillent dans une autre direction, sperte au large. Mais quand nous sommes stables, bâti sur la parole de Dieu, sur les enseignements du Christ, dans les doctrines fondamentales. Alors nous pouvons tenir, nous pouvons nous élever, grandir spirituellement à la gloire de Dieu, à la ressemblance de Jésus, dans notre caractère, dans nos sentiments, dans notre façon de vivre, grandir dans la foi et acquérir de l'assurance. Nous comprenons les Écritures. Chapitre 4, verset 16. Qui veut lire cela, s'il vous plaît ?
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins.
Voilà, approchons-nous, merci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a un trône de la grâce, ce n'est pas le trône du jugement. Hein, il y en a qui ont peur d'être jugés par Dieu. Ou alors il y en a qui pensent que Dieu, il fait tellement grâce qu'on peut vivre comme avant, pécher autant que fois qu'on veut, de toute façon Dieu il pardonne toujours, c'est pas grave, hein. Pécher un petit peu ou un petit peu plus ou un petit peu moins, les autres ne le savent pas, ils ne savent pas ce qui est au fond de mon cœur, de toute façon Dieu lui c'est un copain, il me pardonnera de toute façon, c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Bon, quoi donc? Mais non, la parole de Dieu elle dit que Dieu fait grâce à toute personne, mais que son trône, un jour, va devenir un trône de jugement. Et que c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Nous avons à nous juger, non pas les uns les autres, nous avons à nous juger par la parole de Dieu, chacun pour sa part. Quand on prend la parole, laissons-nous juger par Dieu. Dieu veut corriger le tir dans nos vies. Il veut transformer nos intentions. Il veut transformer nos motivations. Il veut nous amener, selon son cœur, à avoir des désirs et des aspirations qui viennent de lui, pas qui viennent de la chair. Dieu n'accomplira jamais les options de la chair que nous avons. C'est pas ça qu'il veut faire. C'est pour ça qu'il nous conduit souvent dans l'école de Dieu, l'école des épreuves, pour purifier notre foi comme l'or est éprouvé. On l'a dit tantôt. Il y a un libre accès, un chemin entre le lieu saint et le lieu très saint. Vous savez, dans, dans le tabernacle comme dans le temple. Le temple, plus tard, bien sûr, qui a été construit par Salomon. Et puis, ce temple qui va être, agrandi par Hérode le Grand. On voit qu'au temps de Jésus, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment, comment ? Où il est ressuscité. Mais le voile entre le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Un voile de 10 cm d'épaisseur. C'est un voile énorme, ce n'est pas un petit voile. Hein. C'est une tenture extrêmement épaisse entre le lieu saint et le lieu très saint. Et s'est déchiré non pas du bas vers le haut comme l'homme aurait pu le faire. Ça faisait... C'est 5 ou 10 mètres de haut, au moins 5 mètres, je ne sais plus. Il faudrait vérifier les coudées, c'est en coudées que c'est noté. Je pense que c'est une dizaine de coudées de hauteur. Et donc, le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Jusqu'en bas. Et le lieu saint et le lieu très saint n'avaient plus de séparation. Dieu, Jésus, le voile de sa chair a été déchiré. Le voile de sa chair a été, son corps a été crucifié. En étant crucifié, c'est le voile de la chair qui nous sépare du Dieu vivant qui a été déchiré pour qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu, la présence du Dieu même. Extraordinaire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu veut nous donner accès au trône du Père par Jésus, par le Fils. Nous avons un accès direct. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Par Jésus, nous avons un accès direct. Il n'y a plus rien qui nous empêche d'accéder au trône de la grâce. Connaître nos privilèges nous remplit d'assurance. Si nous connaissons nos privilèges, nous sommes libres. Vous connaîtrez ma parole et vous serez libres. Mais si nous ne connaissons pas la parole, nous sommes des fois un peu libres. Une parole par-ci, un petit truc. Mais puis l'ennemi vient avec des doutes et puis on est déstabilisé. Donc si nous connaissons la parole de Dieu, nous sommes vraiment affranchis du malin. Nous sommes vraiment affranchis des pensées, des raisonnements du diable et des pensées de l'être humain dans son ignorance. Nous obtenons la capacité de voir comme Dieu voit. Et ça, c'est une assurance que donne la foi dans un enseignement construit, bâti sur la parole de Dieu. Ne pas connaître Dieu permet au diable d'altérer nos pensées, nos raisonnements. C'est pourquoi nous sommes implicitement, explicitement exhortés à entrer dans la connaissance de Dieu. La Bible nous est donnée, les ministères sont donnés à l'Église. Si nous n'en voulons pas de la connaissance de Dieu, nous voulons simplement les premiers balbutiements de la parole, hein, nous voulons rester au lait, mais ça c'est le problème de chacun. Mais moi en tout cas, je veux manger du steak à midi, je veux manger des bons plats, enfin du steak, mais en fait de la nourriture solide pour les hommes faits, pour les hommes matures. Si on en reste au lait, on sera des bébés toute notre vie. Mais on sera ballotté par l'ennemi qui va nous avoir tôt ou tard. Et l'ennemi dit, c'est pas pour toi. Mais moi, je sais que c'est pour moi. Et je peux le chasser de ma vie. Il y en a qui pensent, oh, c'est un club de bien-pensants, c'est des bons chrétiens. Mais moi, je ne suis pas un bon chrétien, je ne saurais pas être comme eux. Et il y a des gens qui se privent des bénédictions, ils ne savent pas ce qu'ils possèdent, ils ne savent pas leurs privilèges. Ils ne connaissent pas qui ils sont en Christ. Et parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne s'approchent pas non plus du Dieu Tout-Puissant. Ils ne savent pas tout ce qu'ils peuvent obtenir de la part de Dieu. Et si on ne sait pas, si on ne connaît pas, on n'en fera pas l'expérience non plus. Quand nous connaissons nos droits, nous pouvons réprimer le diable par l'autorité que Dieu nous confère. Nous pouvons le réprimer. Ce n'est pas à lui à venir faire son nid sur notre tête. Nous pouvons le chasser de nos pensées. Nous savons que nous pouvons trouver grâce auprès de Dieu. Alors, l'assurance vient quand nous demeurons en Christ. Quand nous demeurons en Christ. C'est fort important. Il est grand là au-dessus. Hein. L'assurance vient quand nous demeurons en Christ. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Qui peut lire?
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et loin de lui.
Ça, c'est important. Merci, Timothée. Donc, maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez, qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? Pour avoir de l'assurance, il faut demeurer. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer? C'est faire sa demeure. Celui en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, disait Jésus. Laissez Dieu faire son habitation en nous et nous habiter dans sa maison. C'est un peu ça. Habiter dans ses paroles. Laissez ses paroles vivre en nous. Être proche de lui, vivre dans sa présence, rechercher continuellement sa face. C'est ça, demeurer. Demeurer, c'est savoir qui nous sommes et demeurer dans cette position sans abdiquer, sans nous laisser avoir et en ne nous éloignant pas de sa présence, en ne nous éloignant pas par le péché, par la séduction des richesses, par les soucis, par les problèmes que nous allons regarder comme étant plus grands que Dieu et nous laisser bouffer par tout ce que le monde met devant nos yeux et nos oreilles. Nous avons à réagir, à prendre position avec le Seigneur, à vivre pour lui. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. L'assurance parce que nous avons une bonne conscience. L'assurance parce que nous sommes proches de lui. L'assurance parce que nous sommes comme Jean. Jean, il aimait bien de mettre sa tête près de l'épaule de Jésus, près du cœur de Jésus. Et au pied de la croix, Jean était là. Les autres avaient disparu. Ils s'étaient éparpillés. Ils avaient été se cacher. Mais Jean était là. Donc, si, oui, tu peux le remettre ici. C'est important. Peut-être l'autre, je ne sais pas si je l'avais mis, la suivante. Non, c'est pas grave. Non, on revient en arrière. Voilà, ici. Voilà. Donc, être proche de Dieu, c'est réaliser que, et demeurer, c'est réaliser que nous sommes greffés à l'olivier franc. Par la foi, Dieu nous a placés sur l'olivier. Nous ne faisions pas partie de l'olivier. Je ne parle pas de majorité politique ici. Mais l'olivier qui représente Israël, le peuple de Dieu, eh bien, Dieu nous a greffés, nous a incorporé. Qu'est-ce qu'on fait pour greffer? Moi, je ne suis pas horticulteur, mais on enlève une partie, hein, on enlève une partie de l'écorce, c'est ça? Et puis, on met une branche d'un autre... comment?
Un greffon.
On l'introduit un peu à l'intérieur.
Oui.
Et puis, on referme, on essaie de cicatriser... Et puis on met un bandage éventuellement pour que ça tienne. Hein? Et voilà, donc ici c'est un olivier qui a été greffé sur cet arbre. C'est ordinaire. Eh bien, c'est nous. Nous avons été greffés sur l'olivier franc. Nous ne faisions pas partie de cet arbre, mais par la foi nous avons été... Attention qu'on pourrait être tranché. Faisons gaffe, si on perd la foi, on peut être... Bon, et c'est la foi qui nous maintient sur l'olivier franc. Hein, si nous sommes déjà écrits sur le livre de vie, il n'y a plus de problème. Mais attention, parce qu'il y a une question de persévérance. Et ça, nous verrons ça. Faisons fort attention. Si nous sommes éloignés de Dieu, nous perdons l'assurance. Même si nous demandons pardon, nous allons perdre une partie de l'assurance. On peut récupérer de l'assurance. Hein. Il y en a qui sont tombés très bas et qui ont récupéré. Mais il y en a qui s'éloignent tellement qu'ils se disent « Oh, c'est pas grave. J'ai l'assurance que Dieu est plein d'amour et qu'il me pardonnera toujours. C'est pas grave. » Et ils s'éloignent tellement du Seigneur qu'après, ça devient impossible de revenir. Ils se sont tellement éloignés, tellement endurcis dans leur conscience et dans leur cœur. Ils ont gardé une assurance même quand tout allait de travers. Mais pour finir, c'est difficile, ce n'est pas la vraie assurance que le Seigneur donne, c'est une assurance d'une fausse conscience pervertie. Et puis on s'éloigne, et puis si on meurt d'un accident à ce moment-là, on risquerait de passer notre éternité de l'autre côté. Et il y a des gens qui se laissent aller et qui ne font pas attention à rester proches du Seigneur. C'est tellement important. Demeurer en Christ, demeurer comme le greffon, hein, que Micheline a parlé sur l'olivier franc. Être conscient que nous sommes le temple du Saint-Esprit et on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur, il demeure en nous, nous demeurons en lui et nous ne faisons pas ce que nous voulons avec notre corps, faisons pas ce que nous voulons avec notre esprit. Ça lui appartient. Il nous prête notre corps, mais nous allons lui rendre notre corps, notre vie. Mais pas comme un talent jeté en terre, et puis à la dernière seconde, tiens, voilà ton talent. Non, notre vie, c'est quelque chose de magnifique à utiliser dans la foi. Hein? Posologie, à utiliser uniquement dans la foi. Dans la foi avec Dieu. Donnez votre corps au Seigneur, donnez votre esprit, donnez votre âme, donnez vos talents, donnez votre énergie, donnez vos forces, donnez vos capacités, donnez votre amour, donnez votre foi au Seigneur. Soyez assurés de son amour, soyez assurés qu'il tient toutes choses entre ses mains et qu'il va faire des choses extraordinaires avec vous. Et soyons conscients que nous sommes une habitation en esprit tous ensemble quand on se réunit. Tous ensemble nous lui appartenons. C'est tous ensemble que Dieu veut que son peuple soit uni. Ce n'est pas seulement une petite famille qui est unie. Ah, ben c'est bien, mais on n'est pas unis avec les autres. Non, c'est une recherche d'unité les uns avec les autres. Ce n'est pas une unité à deux seulement. C'est une unité à tous ensemble. Demeurer, c'est entretenir le feu de notre communion avec le ciel. Être éloigné de lui tournerait à notre confusion, et ça c'est ce que nous disions tantôt, nous avons lu, si nous nous sommes éloignés, ça va tourner à notre confusion. Nous allons avoir honte. Quand il reviendra, si nous sommes éloignés de Dieu, nous aurons honte. Et ça tournera à notre confusion. C'est ce qui nous intéresse? Non, hein? J'espère. Hein? On veut vraiment être avec lui. Ne permettons pas ces choses d'arriver. L'assurance doit être maintenu par la connaissance de qui nous sommes en Christ et par la persévérance. L'assurance doit être maintenue par la connaissance de qui nous sommes. Si nous oublions qui nous sommes, hein, ça risque d'aller mal. Nous risquons de perdre notre identité. Nous avons une identité citoyen du ciel. Nous sommes concitoyens des cieux. Est-ce que vous vous rendez compte? Si nous perdons de cela de vue, eh bien, nous allons être simplement des petits terrestres comme les autres. D'accord? Des gens natifs d'une région qui vont à... Non, nous sommes nés à Sion. Psaume 86. Nous sommes tous nés à Sion, dans la Jérusalem d'en haut. C'est là qu'est notre destinée. Et les Juifs, vous savez qu'ils vivent avec une valise. Ils sont toujours prêts à partir, à déménager. Ils sont persécutés, et bien s'ils sont persécutés, ils partent dans un autre pays. Et vous savez que nous devrions toujours être prêts à mourir. Il y a une personne qui est décédée, pas loin de chez vous d'ailleurs, en allant sur Malone, en moto. Il a fait un dépassement, et on est arrivé quelques secondes après, un petit peu, juste après, tout était barré d'ailleurs, et cet homme a perdu la vie. Ça va vite, hein? Je ne sais pas ce que je peux devenir, moi, demain. Je ne sais pas. Un simple accident, une maladie foudroyante, et boum. Et voilà, ça va vite. Ça va vite. Donc, je dois vivre comme le juif avec une valise, prêt à partir. Je suis un étranger, un voyageur sur cette terre. Ça peut aller vite. Et la mort peut intervenir à tout moment. Alors, qu'est-ce qui est important pour moi? Ma vie, elle est importante? C'est vivre dans la foi au Christ qui m'a aimé. C'est ça qui est le plus important. Il n'y a pas plus important que ça. Vivre dans la foi me donne de l'assurance. Voilà. Et la persévérance. Hébreux chapitre 3, verset 14. Qui peut lire ce verset, s'il vous plaît? Il faut le
quelqu'un d'autre. Je sollicite beaucoup, hein. Alors, finalement, tout le monde va lire, hein, pour finir. Voilà, merci. Donc, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement, et ça peut être traduit fermement jusqu'à la fin, ça peut dire persévérer. Si nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il y a une question de persévérance. La persévérance nous donne de l'assurance. Retenir, c'est préserver comme la chose la plus précieuse. Et je crois que c'est tellement important. Et un homme avait un magnifique diamant, un beau diamant. Hein, il le montrait à tout le monde. Il était sur un paquebot, un super paquebot de luxe. Hein, vraiment. Il n'y avait que des richards qui étaient là. Donc lui, il n'avait pas peur de montrer son diamant. Les autres en avaient peut-être un plus petit que lui, mais enfin bon. Et son beau diamant, il dit, regardez ce que je peux faire avec ce diamant. Et il jette en l'air, hop, et il rattrape. Problème. Et puis